franceinter.fr.
Aujourd'hui dans Affaires Sensibles, retour sur l'un des plus grands événements de l'histoire de la médecine, la première greffe du cœur réalisée par le professeur Christian Barnard et son équipe dans la nuit du 2 au 3 décembre 1967 au Cap, en Afrique du Sud. Une révolution pour la science et un changement de paradigme dans l'histoire de l'humanité. Voilà comment le journal Le Monde annonçait la nouvelle à l'époque, celle d'un incroyable progrès scientifique. L'opinion publique, fascinée, découvrait alors le visage d'un jeune et sémillant médecin, à mi-chemin entre le gendre idéal et l'acteur hollywoodien, un praticien jusque-là méconnu même de ses pairs, et qui allait devenir un pionnier, le premier à avoir échangé un cœur entre deux êtres humains, réalisant le rêve de la chirurgie d'alors, une transplantation cardiaque, aujourd'hui devenue familière, sans jamais être banale. En 1967, au moment où les États-Unis et la France se disputent la première place dans la recherche en cardiologie, c'est donc à l'hôpital du Cap, en Afrique du Sud, que le professeur Barnard bouleverse l'ordre des choses. Alors, pourquoi a-t-il réussi, lui, avant les autres? Et dans quelles conditions s'est déroulée cette incroyable opération, cet exploit retentissant? C'est cette histoire que nous allons vous raconter, sans oublier de préciser que le docteur Barnard est devenu professeur après son exploit professeur. Titre que nous lui donnerons, par commodité, tout au long de ce récit. Notre invité aujourd'hui, le professeur Gilles Dreyfus, cardiologue et chirurgien de renommée internationale. Il est directeur médical du Centre cardiothoracique de Monaco. Il a pratiqué au cours de sa carrière plus de 500 greffes cardiaques et plusieurs milliers d'opérations à cœur ouvert. Il est à Nice, dans les studios de France Bleu Azur, que nous remercions au passage pour leur accueil. Affaires Sensibles, une émission de France Inter, en partenariat avec l'INA, préparée par Adrien Cara avec le soutien des documentalistes de Radio France, attaché de production Valérie Bourg, coordination Christophe Barrère, voix du professeur Christian Barnard, Philippe Pierrard, programmation musicale Muriel Pérez, réalisation Fabrice Lègle, à la technique aujourd'hui, Fabrice Desmas.
Fabrice Drouel, Affaires Sensibles, sur France Inter.
Le Cap, Afrique du Sud, samedi 2 décembre 1967. Il est un peu plus de 20h. Dans leur grand pavillon, situé dans une banlieue huppée de la ville, blanche et riche, ce qui est souvent le cas au pays de l'apartheid, le professeur Christian Barnard et sa femme se préparent à passer la table. Dehors, dans le jardin, leurs enfants jouent en toute insouciance. À la fenêtre de la cuisine, on aperçoit les derniers rayons du soleil. Au thermomètre, la température affiche encore près de 25 degrés et tout annonce le début d'une chaude nuit d'été australe. Pourtant, cette tranquillité n'est qu'apparente. En effet, quelques instants plus tard, le téléphone sonne. Le professeur se précipite dans le couloir pour décrocher. C'est le docteur Winter, son assistant, qui l'appelle et qui lui dit, surexcité, « Professeur, je crois que nous avons mis la main sur un donneur ». Stupéfait par la nouvelle, Barnard répond « Êtes-vous certain qu'il est compatible ?»« Oui, » ajoute le jeune médecin, « j'ai vérifié son groupe sanguin. » Barnard enfile une veste et prend son cartable, il ouvre la porte et se précipite dans sa voiture. Il démarre en trombe et prend la direction de l'hôpital Gloucester, situé dans le nord-ouest de la ville. Main sur le volant, Barnard se prépare psychologiquement à ce qu'il s'apprête à faire dans les heures qui vont suivre. Un épisode qu'il racontera par la suite dans ses mémoires.
À ce moment précis, mon cœur battait aussi vite que celui d'un sprinteur en plein effort. J'étais à la fois nerveux et concentré, car je savais que cette nuit-là, nous allions tenter quelque chose que nul n'avait jusqu'à maintenant encore osé. Nous allions tenter d'échanger une vie contre une autre, sans espoir certain que cela fonctionne. Qui pourrait assumer une telle responsabilité? Et surtout, au nom de quoi?
Angoissé, le professeur Christian Barnard, il l'est, sans nul doute, car voilà près de 20 ans que la science tâtonne en matière de transplantation cardiaque. Dans l'histoire de la médecine, au milieu des années 60, la greffe n'est pas une pratique nouvelle. Voilà plus d'un demi-siècle que les chirurgiens européens ou américains étudient et pratiquent la transplantation sur les animaux, mais aussi sur l'homme. Au début, c'est le rein qui joue les cobayes, un organe facile à transplanter, pense-t-on alors. Et pourtant, les premières tentatives se révèlent aussi infructueuses qu'inefficaces. Malgré des opérations méticuleusement préparées, parfaitement exécutées et très suivies, les patients opérés décèdent en très grande majorité dans les jours qui suivent. C'est ainsi que l'on découvre un facteur essentiel, le rejet. Autrement dit, le risque que notre système immunitaire organise une réaction naturelle de lutte contre l'organe greffé. Comme face à une bactérie, il combat le greffon qu'il perçoit, lui, comme un corps étranger. Dès lors, pour les chercheurs et les médecins, la transplantation prend une autre dimension. Il ne s'agit plus simplement de placer un organe dans un autre corps, mais il faut faire en sorte qu'il y reste. Pour cela, on invente l'immunosuppression, une technique qui consiste à affaiblir le système immunitaire du receveur pour lui faire accepter le greffon. Avec cette barrière scientifique en partie franchie, la greffe de rein connaît d'importants succès en Europe et surtout aux États-Unis, où elle se multiplie. Des succès qui permettent alors d'envisager d'autres transplantations. Alors, pourquoi pas celle du cœur ? D'autant qu'au milieu des années 60, cet organe vital et central dans notre organisme est devenu un enjeu de santé publique, comme l'explique le professeur de cardiologie Jean Lenègre.
Le cœur d'un homme, ça fait une chose assez extraordinaire. Cela bat 70 fois par minute, c'est-à-dire 100 000 fois par jour, plus de 36 millions de fois par an, et à peu près 3 milliards de fois dans tout le cours de la vie de l'homme. Et cette mécanique merveilleuse, qui est presque sans égale, peut cependant se dérégler ou tomber malade. Vous le savez, qu'environ un tiers des Français meurent de leur cœur. On peut estimer que le nombre des malades du cœur en France dépasse le chiffre total de 2 millions. C'est dire l'importance humaine et l'importance sociale considérable du traitement des maladies cardiaques. Cela explique pourquoi les problèmes du cœur soulèvent les passions et les intérêts, malheureusement parfois personnels. Ce cœur malade, on serait tenté de le réparer ou de le changer. Le réparer, c'est la chirurgie actuelle. Mais dans le fond, c'est un travail de pièces détachées. Et quels que soient les progrès de cette chirurgie, quels que soient même les résultats brillants qu'elle donne chez certains sujets, elle n'est le plus souvent qu'une mesure incomplète.
Sur la base de ce grand enjeu, c'est aux États-Unis que les premiers grands travaux pour réparer ou transplanter le cœur sont à l'étude. Nous sommes alors au début des années 50 et la filière de recherche américaine, jeune et ambitieuse, ne cesse d'innover. Le professeur Barnard l'a bien compris. Diplôme de médecine générale en poche, âgé seulement de 30 ans, il va venir ici apprendre et pratiquer aux côtés des pionniers de la chirurgie cardiovasculaire. Parmi eux, le docteur Clarence Lilhye, auteur des premières opérations de chirurgie à cœur ouvert, ou encore le professeur Lower Shumway, ponte de la cardiologie et auteur de la toute première greffe cardiaque en 1960 sur un chien. De retour au Cap, enivré par cette expérience américaine, Christian Barnard se lance dans la recherche pour réaliser à son tour une greffe du cœur sur un chien, puisque telle est la méthode. Près d'une cinquantaine d'essais de greffe seront nécessaires sur ces animaux avant que le médecin obtienne ses premiers succès. Ce qui l'amène dès lors à s'interroger sur la possible application à l'homme. Or, de l'animal à l'humain, le fossé est grand, on le sait, et il a pour l'instant découragé toutes les autres équipes de chercheurs à travers le monde. Pourtant, en cette soirée du 2 décembre 1967, c'est cette frontière que la science et le professeur Christian Barnard s'apprêtent à franchir. Hôpital Grootscher. Il est un peu plus de 21h lorsque le professeur Barnard débarque dans la salle de briefing de l'unité de cardiologie. Autour du docteur Venter, celui-là même qu'il a appelé pour le prévenir, toute l'équipe médicale étudie avec attention les bilans des deux patients sur lesquels va se dérouler l'opération. Ou plutôt, les opérations. Car comme leur explique Barnard, il s'agit en réalité d'opérer simultanément sur deux patients. Alors, une première équipe doit ouvrir le corps de l'individu donneur afin d'y récupérer son cœur en bon état. Dans le même temps, en stéréo en quelque sorte, une seconde équipe doit extraire le cœur en mauvais état du patient receveur. Puis l'organe du premier doit être greffé. Pas de place ici pour l'improvisation, chaque geste doit être chronométré. Comprenez ici que les deux équipes devront insister à retirer les cœurs des deux patients de manière parfaitement synchronisée, les inciser également de manière tout aussi parfaitement synchronisée. La performance technique et médicale est de taille. Alors que le professeur Barnard continue son briefing, on aperçoit derrière lui, sur un grand tableau blanc, deux photos. et à côté, une multitude d'annotations au feutre rouge. Il s'agit des caractéristiques des deux individus qui vont servir de cobayes pour cette grande première. À gauche, la fiche de Louis Vachkanski, sur laquelle est inscrite en grosses lettres un R qui signifie « recipient », comprenez « receveur » en français. Louis est un épicier de 53 ans dont le cœur est malade, il a déjà survécu à 3 attaques. Cet homme de corpulence moyenne, diabétique, devrait être mort depuis longtemps. Pourtant, jour après jour, il continue d'étonner le service de cardiologie par sa résistance. Et c'est en toute connaissance de cause qu'il a accepté de participer à ce protocole d'étude complètement expérimental qui vise à lui greffer le cœur d'une autre personne. Et cette autre personne, c'est une jeune femme de 25 ans, Denise Darval. À côté de sa photo, en vert, on a inscrit la lettre D en majuscule pour Donna, donneuse. L'histoire de Denise est tragique. Quelques heures plus tôt, elle et sa mère ont été renversées par une voiture. La mère est morte sur le coup. Denise, amenée en urgence au Groucher Hospital, a le cerveau irrémédiablement endommagé. Son cœur continue de battre, mais uniquement parce qu'elle est sous respiration artificielle. Autrement dit, elle est le sujet idéal pour offrir son cœur à Louis. Mais il faut d'abord signer avec la famille la déclaration de consentement, bien sûr. Le professeur Barnard se rend donc au chevet de la jeune femme et de sa famille.
Je leur ai expliqué qu'il n'y avait malheureusement rien d'autre que nous ne puissions faire pour sauver Denise. Nous avions fait tout ce qu'ils m'étaient en mesure de faire grâce à nos connaissances. Je l'avais traité jusqu'au bout de ce que je pouvais médicalement faire et il ne nous restait désormais plus aucune option. Puis j'ai ajouté, maintenant, vous pouvez choisir de rendre un service à l'humanité en acceptant que nous prélevions son cœur. À ce moment précis, je n'avais pas de sentiment particulier. Je savais que j'avais fait de mon mieux pour sauver ce premier patient et je voulais faire de mon mieux pour sauver le patient suivant.
Le père de Denise demande à voir une dernière fois sa fille. Le professeur Barnard l'accompagne. Tous les deux pénètrent dans la chambre des soins intensifs où le corps de la jeune femme est étendu sur un lit. De sa bouche sort la sonde d'intubation reliée à un dispositif mécanique qui la maintient en vie. Son père s'approche et lui prend la main, puis il se retourne et déclare « Si vous ne pouvez pas sauver ma fille, essayez de sauver cet homme. » Il prend le formulaire de consentement, le regarde, hésite un peu tout de même, et puis il signe. Cette fois, la machine est lancée. Impossible pour le professeur Barnard de reculer. Alors, cette nuit, il part avec son équipe pour un voyage médical vers l'inconnu, un endroit où la science n'a jamais osé s'aventurer. Il est 1h du matin, ce dimanche 3 décembre 1967, lorsque les deux patients du professeur Barnard sont conduits en salle d'opération au troisième étage de l'hôpital Groucher. L'équipe, composée d'une trentaine de personnes, se prépare à passer au bloc. À 1h30, l'anesthésiste endort le patient en attente de la greffe, celui qui sera le receveur, Louis Vachkanski. Puis, la première équipe se place autour de la table et lui ouvre la poitrine. Apparaît alors l'enveloppe battante qui protège le cœur. Puis, après incision, le cœur lui-même. Immédiatement, on branche le mécanisme de circulation extracorporelle. Au même moment, à quelques mètres de là, dans une salle d'opération qui jouxte la première, la tension est tout aussi palpable. Le professeur Barnard et la deuxième équipe s'activent autour de Denise Darval, celle qui doit donner le précieux organe. L'œil sur l'horloge, toute l'équipe attend le moment fatidique. À 2h15, Denise Darval est déclarée morte selon la loi. Alors, avec calme et précision, les mains du professeur Barnard plongent de nouveau dans le corps sans vie de la donneuse dont il extrait le cœur qu'il dépose délicatement dans un bassin rond rempli d'une solution glacée. Sans attendre, le chirurgien se précipite dans l'autre salle, celle où se trouve le receveur Louis Vachkanski. Car désormais, chaque seconde compte. Barnard passe les portes battantes, derrière lui son assistante transporte sur un chariot le bassin contenant le cœur de la jeune donneuse. Après avoir changé de gants et de masque, le professeur Barnard va désormais procéder à la transplantation. Alors, chacun de ses gestes s'effectue avec précision et minutie. Quelques instants plus tard, le chirurgien extrait le cœur de Louis et le dépose sur un plateau. Il attrape ensuite celui de Denise. Rose, ferme et glacée, il apparaît bien petit par rapport à celui du vieil homme. Il est 3h30 du matin. Pendant encore presque une heure, le chirurgien va veine après veine, artère après artère, suturer ce cœur pour le fixer à son nouveau corps. Quand enfin, vers 4h30, toute l'équipe retient son souffle pour l'heure de vérité.
Nous venions de terminer les sutures lorsque je pris la décision de couper la circulation extracorporelle. Le docteur Venter et moi-même fixions des yeux l'électrocardiogramme. Mais celui-ci restait, à mesure que les secondes défilaient, désespérément plat. Ce qui signifie que le cœur que nous venions d'introduire ne battait pas. Avions-nous surestimé ce cœur de jeune fille, pensant qu'il pourrait remplacer celui d'un homme plus âgé? Lors de nos expériences sur les chiens, il était déjà arrivé à plusieurs reprises que le cœur greffé ne reparte pas. Et ce, pour une raison qui nous était toujours inconnue. Était-ce le cas ici? Nous avons décidé de tout tenter. Nous l'avons choqué à l'aide d'électrodes plusieurs fois et puis, au bout de quelques minutes, le miracle s'est déroulé sous nos yeux.
En effet, l'écran de l'électrocardiogramme affiche un tracé positif et fait jaillir son bip caractéristique. Le cœur de Denise vient de repartir. Et pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, le cœur d'un être humain bat dans la poitrine d'un autre. Dans la salle d'opération jusque-là si calme, c'est l'explosion de joie. À 8h du matin, après une nuit d'opération et alors que le soleil se lève sur la ville du Cap, le professeur Christian Barnard, épuisé, rentre chez lui. Il en a bien conscience. Il vient de réaliser avec son équipe un exploit technique et médical sans précédent. Pourtant, il sait aussi, et mieux quiconque, que rien n'est encore joué et que la réalité pourrait le lui rappeler.
Il est maintenant juste 20h, vous écoutez France Inter. L'interactualité dimanche est présentée par Pierre Charpentier.
En Afrique du Sud, depuis ce matin, un homme de 55 ans vit avec le cœur d'une jeune femme morte dans un accident d'automobile. Il vit. Et ce qui est encore plus étonnant, c'est que les médecins qui l'ont opéré sont, on ne peut plus, satisfaits de son état de santé.
L'opération a duré 5 heures. L'homme qui souffrait d'une malformation cardiaque avait été hospitalisé il y a un mois. Depuis, les médecins attendaient de disposer d'un cœur de rechange présentant les caractéristiques convenables pour tenter d'opérer leur malade.
C'est dimanche 3 décembre 1967, en milieu de journée, c'est le typhon médiatique. Il ne faut que quelques heures pour que les agences de presse relaient l'information selon laquelle une équipe chirurgicale inconnue a réalisé avec succès la première transplantation cardiaque dans l'histoire de la médecine. Aussitôt, les projecteurs du monde entier nous font découvrir le visage et le sourire de Christiane Barnard. Mais également un pays jusque-là connu seulement pour sa ségrégation raciale, l'Afrique du Sud. Quelle aubaine d'ailleurs pour ce pays à la réputation si infréquentable. Et les dirigeants de Pretoria vont évidemment en tirer profit. On invite ainsi des journalistes du monde entier à venir rencontrer celui qui, devenu en l'espace d'une journée un héros mondial, le professeur Barnard. Quelle publicité pour l'Afrique du Sud. À l'image de cette déclaration du professeur Geldenhuys, pour qui cet exploit montre la qualité des institutions de santé et de recherche de son pays.
C'est peut-être parce que nous sommes un pays très haut médicalisé ici. Nous avons 5 écoles de médecine très bonnes. Nous avons à peu près 8000 médecins qui font un travail très avancé. Ils font beaucoup de recherches en médecine aussi dans ce pays.
Lesquelles, par exemple?
Je peux penser aux vaccins contre le typhus. Dans la guerre dernière, presque tous les vaccins contre le typhus venaient de l'Afrique du Sud, où on a développé une méthode nouvelle pour le faire. On l'attendait parce qu'on savait que l'équipe de professeur Barnard est exceptionnelle. Il avait le courage de le faire, il avait l'équipe de le faire, il avait les facilités et il pouvait le faire.
Plus haut dans les étages de l'hôpital, les journalistes pressent et s'entassent dans le couloir qui mène à la salle de réveil pour essayer d'entrevoir le patient Louis Vachansky. Mais un agent de sécurité en protège l'accès. En plein milieu, on a installé un petit panneau sur trépied sur lequel on peut lire « No entry », entrée interdite. Les heures défilent quand enfin, vers 16h, le docteur Neil, qui a assisté Christiane Barnard, passe la porte et se présente face aux journalistes.
Docteur Neil, pourquoi ne peut-on pas entrer?
Pour des raisons de stérilité. Il ne faut pas que des gens qui viennent de l'extérieur apportent des microbes, des germes aux patients.
Comment va-t-il?
Il va très bien. Il s'assied sur son lit. Il a bon appétit. Peut-être dans un ou trois jours, il va se lever et s'asseoir dans un fauteuil, dans sa chambre. Son moral est bon.
En somme, il est en très bonne forme.
Il est en bonne forme, oui.
Est-ce qu'il a vu sa femme?
Oui, il a vu sa femme aujourd'hui. Elle parle avec lui à travers une vitre pour des raisons de stérilité encore.
Au même moment, alors que l'opinion publique mondiale se passionne et s'enthousiasme devant ce progrès considérable pour l'avenir de la médecine, dans les médias, on s'interroge. Pourquoi cet exploit a-t-il été réalisé en Afrique du Sud et par une équipe de recherche jusque-là inconnue? La réponse, le professeur de cardiologie Alain Guilmet la résume ainsi. D'une part, le professeur Barnard avait reçu une formation de grande qualité lors de ses stages d'études aux États-Unis. C'est là qu'il a appris et pratiqué aux côtés des meilleurs spécialistes en cardiologie. Il a réussi à concentrer tous les points forts des techniques et pratiques des Américains. Omnubilé par la recherche médicale, il a voulu aller encore plus loin et dépasser ses mentors. On lui reprochera d'ailleurs par la suite de ne pas avoir cité les travaux de ceux qui avaient réellement mis au point la technique de la greffe et de s'être attribué tout le mérite. D'autre part, il faut prendre en compte le fait que Barnard avait le soutien inébranlable de tout son entourage médical, et notamment des cardiologues sud-africains. Il a pu profiter également d'une absence de règles encadrant la pratique. Une lourdeur administrative qui a sans doute retardé la tentative du professeur Shonway aux États-Unis ou encore celle de l'équipe du professeur Dubost en France. Enfin, et c'est vraiment ce qui fait la différence, Barnard bénéficiait de cette petite dose de folie indispensable pour concevoir toutes les grandes réalisations. Il a osé, il a brisé un tabou, il a balayé un dogme, celui qui pendant 20 siècles a affirmé dans la Bible qu'un cœur ne peut pas quitter son enveloppe, c'est-à-dire le corps dans lequel il bat. Une fois de plus, et pour le bonheur de l'humanité, la science l'emporte sur la croyance. Interrogé sur cette étonnante réussite, le jeune médecin devenu star planétaire de sa discipline, et star tout court, préfère se concentrer sur l'état du patient, qui se remet pour l'instant plutôt bien de l'opération, et il préfère insister sur l'expérience et la qualité des membres de son équipe.
Je pense que c'est parce que nous avons une équipe expérimentée en matière de chirurgie cardiaque. Nous avons aussi acquis une expérience considérable sur des transplantations rénales et sur l'usage des traitements d'immunosuppression. Nous avons aussi fait de la recherche pendant presque 3 ans dans la transplantation cardiaque, et je pense donc que cela nous a donné une équipe opératoire très forte dans laquelle chacun des membres l'est aussi. Et c'est donc la raison, selon moi, pour laquelle nous avons été les premiers à le faire.
En France, dans les semaines qui suivent, l'opération du docteur Barnard crée un profond débat au sein de la communauté scientifique. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que cet enthousiasme tranche avec la ferveur populaire qui entoure l'exploit. En effet, parmi les membres de l'association de cardiologie, de nombreuses voix s'élèvent pour condamner un acte d'aventurier réalisé dans des conditions inadmissibles. Les professeurs Soulier, Dubost et Lenègre, médecins parmi les plus influents de la discipline, très en verve à défaut d'être novateurs, réagissent comme un seul homme pour critiquer, je les cite, « l'opportunisme débridé d'un jeune médecin qui a occasionné une prise de risque sans limite pour son patient ». Qui plus est, selon eux, Barnard a commis une faute lors de son opération. Il a prélevé un cœur sur une personne dont on ne pouvait pas assurer à 100% qu'elle était bien morte. Un avis que partage le professeur Descotes, spécialiste de la transplantation d'organes à l'hôpital de Lyon.
Le cœur pose un problème particulier car c'est véritablement l'organe suprême dont l'arrêt d'ailleurs de fonctionnement définit la mort. Par conséquent, il n'est pas pensable sur le plan éthique, sur le plan moral, de prélever, même sur un sujet anormal, même sur un monstre, un cœur en état de vie.
Aujourd'hui, ces propos sont obsolètes puisque la mort cérébrale est clairement définie par la loi. Mais à la fin des années 60, il n'existe pas encore de statut pour la phase de coma dépassée. L'exploit technique du professeur Barnard a donc, au-delà du geste, le mérite d'avoir ouvert une porte sur la définition légale de la mort clinique. Quelques années plus tard, le débat sera enfin tranché. Mais à l'occasion de cette première grève cardiaque, il aura fait couler beaucoup d'encre, comme si le débat bioéthique avait supplanté l'exploit technique. Au même moment, au Cap en Afrique du Sud, les journalistes envoyés sur place continuent leur reportage autour de l'hôpital Groucher et de l'équipe du professeur Barnard. Mais un peu plus de 2 semaines après l'opération, la belle histoire, celle du premier homme auquel on a greffé un cœur, court tout droit et trop vite vers son générique de fin. Samedi 19 décembre 1967, l'Afrique du Sud fait encore une fois la une de l'actualité. Mais en l'occurrence, la nouvelle qui arrive du Cap n'est pas bonne. Le premier greffé cardiaque de l'histoire est mort. Mort d'une infection pulmonaire due à un système immunitaire profondément affaibli, en partie à cause de son traitement anti-rejet. Paradoxe de cette histoire, en France, où l'on avait critiqué cette intervention aventureuse, de nombreux cardiologues refusent de parler d'échec. Le docteur Cachera, entre autres, de l'hôpital Brousset, pour qui, au contraire, un pas de géant a été franchi. Pour lui, les enseignements de cette expérience sont inestimables.
À vos yeux, que représente la tentative de Chris Barnard ?
Eh bien, c'est l'étape technique qui est franchie. L'étape technique de la transplantation cardiaque a réussi. Il a été démontré par cette opération que le cœur de l'homme se comportait comme se comportait expérimentalement le cœur des animaux. C'est-à-dire qu'il était susceptible de remplir absolument toutes ses fonctions transplantées dans le thorax d'un autre être humain. Et ceci en étant privé de toutes les connexions nerveuses qui normalement assurent son fonctionnement. Par conséquent, un grand pas est franchi puisque l'expérimentation est une chose, mais l'application humaine en est une autre et d'une bien autre envergure. Et on ne peut... Malgré le résultat partiel qui a été obtenu, on ne peut que s'incliner devant le courage, la capacité technique des opérateurs et également le grand courage du malade.
Alors que la mort de Louis Vachansky aurait pu le décourager, Christian Barnard affirme au contraire à la télévision que la science ne peut en rester là, sur un demi-échec. Déçu mais pas désespéré, il poursuit donc avec la même détermination. 3 jours plus tard, le chirurgien sud-africain récidive et au pays de l'apartheid, il transplante le cœur d'un jeune homme noir dans le corps d'un vieil homme blanc. Quel symbole ! Celui-ci vivra 1 an et demi dans des conditions presque normales, jusqu'à convaincre les plus sceptiques autour de la greffe cardiaque. Désormais, la machine est lancée. Aux États-Unis, le professeur Chamouet et son équipe s'engouffrent dans la brèche ouverte par le chirurgien sud-africain, réalise quelques semaines après la première greffe cardiaque aux États-Unis. 5 mois plus tard, à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière, les professeurs Cabrol et Gorodon réaliseront à leur tour la première transplantation cardiaque européenne. En 1968, ce ne sont pas moins de 100 opérations de greffe du cœur qui seront réalisées avec plus ou moins de réussite, c'est vrai. Et aujourd'hui, la pratique est courante, même si elle reste fascinante. Et si elle devait porter un nom de baptême, ce serait évidemment celui de Christian Barnard, qui aura eu le courage et l'audace de passer de frontières que beaucoup d'autres chirurgiens s'étaient jusqu'alors refusés de franchir.
Affaires sensibles, Fabrice Drouel.
Aujourd'hui, la première greffe du cœur réalisée par le professeur Christian Barnard en 1967. Notre invité aujourd'hui en duplex dans les studios de France Bleu Azur à Nice, c'est le professeur Gilles Dreyfus. Bonjour professeur.
Bonjour.
Cardiologue, chirurgien, directeur médical du centre cardio-thoracique de Monaco. Vous avez pratiqué au cours de votre carrière beaucoup d'opérations à cœur ouvert, plus de 400, me dit-on, c'est cela ?
Non, à cœur ouvert plusieurs milliers et de transplantations plus de 500.
Bien, alors, j'ai fait un petit calcul. Vous aviez 16 ans lors de l'exploit du professeur Barnard. Peut-être aviez-vous déjà envie de devenir médecin, je ne sais pas. Quel souvenir gardez-vous de cet événement ?
Oh, sûrement quelque chose qui était fascinant, un peu comme aller sur la Lune, un exploit comme un rêve que l'humanité achevait.
Et d'ailleurs, quand vous dites comme aller sur la Lune, effectivement, moi j'ai pensé à ça en faisant le récit, en entendant les bips de l'électrocardiogramme. Ça faisait comme ça une sorte d'exploration aussi par le son. Ça vous a donné envie de devenir médecin, cet exploit, ou vous aviez déjà ce projet dans la tête?
Je voulais être chirurgien cardiaque avant ça.
Ah bon.
Donc, je voulais être chirurgien cardiaque avant ça.
Donc ça vous a confirmé dans votre vocation, j'imagine. Est-ce que vous avez rencontré le professeur Barnard plus tard?
Oui, je l'ai rencontré plusieurs fois au Cap et à Paris. C'était un homme tout à fait intéressant, amusant. Mais enfin, il avait beaucoup dévié de la médecine. Parce que, comme vous avez bien dit dans votre reportage, il était devenu une star et il a été emporté par ce mouvement. C'est très difficile de concilier la médecine et le star system.
Et vous aviez, vous, la sensation, effectivement, qu'il goûtait à cette notoriété plus que de raison, en gros, c'est ça?
Oh, c'est pas une sensation, c'est une réalité. Il a divorcé deux ou trois fois et il était intéressé, à mon avis, plus par le succès médiatique et les femmes, ce qui était une qualité probablement, mais plus que par la chirurgie. D'autant qu'en plus, il a eu rapidement une arthrose des mains, ce qui l'a empêché d'opérer et il a dû trouver une autre voie. Donc il a eu un ennui personnel de santé qui lui a pas permis de continuer la chirurgie cardiaque pendant au-delà de 10 ans à peu près après sa première greffe.
Alors bon, quoi qu'il en soit, son nom restera dans l'histoire avec cette première transplantation cardiaque en 67. C'est un progrès majeur de l'histoire de la médecine. Alors pourtant, hein, malgré ce premier élan positif, les résultats ont été... Alors on n'arrive pas à dire, difficile de dire si ça a été décevant ou pas décevant, parce qu'en même temps, ça fonctionne, mais on maîtrise pas le rejet, donc le premier patient meurt finalement assez prématurément. Comment on peut qualifier ces débuts de semi échec ou quand même succès?
Avant de mettre une étiquette sur cette action, je crois qu'il serait convenable de rappeler que Barnard a bénéficié d'une société où il n'y avait pas le poids moral qu'il y avait aux États-Unis ou dans les pays anglo-saxons ou latins. Et il a bénéficié du flou, comme vous l'avez dit dans votre reportage, qu'il y a sur la définition de la mort cérébrale, ou de la mort tout simplement. La mort en 67, c'était l'arrêt du cœur. Donc il y avait beaucoup de gens qui n'osaient pas franchir cette étape, alors que on a mis beaucoup de temps. Je pense que c'est seulement depuis 15-20 ans qu'on est arrivé à définir clairement la mort cérébrale et à accepter que quelqu'un dont les organes fonctionnent et qui a un cerveau détruit, soit par un traumatisme, soit par un accident vasculaire cérébral, soit mort cérébralement et que les organes fonctionnent, et que là, il faille prendre les organes. Et puis, je crois quand même qu'il faut rendre hommage à la technique de Chamoué-Lauer. Chamoué-Lauer, pendant des années, dans le silence, et souvent en médecine, c'est quand même mieux que le battage médiatique, dans le silence, sont arrivés à mettre au point cette technique. Et en fait, Barnard, soyons très clairs, je parle un petit peu vulgairement, a piqué la technique. Il a bénéficié. Alors, on peut dire que il a eu le courage de sauter le pas, mais il n'a pas fait la recherche que l'on dit. Il a vu une technique et il est rentré au Cap, il l'a appliquée. Chamoué-Lauer avait fait depuis des années des animaux et était prêt à le faire. Il subissait le poids moral de la société américaine qui semblait leur interdire de le faire. Alors il l'a débloqué et son nom restera indéniablement comme celui qu'il a fait. Mais lui attribuer le succès médical... Ça paraît un tout petit peu, je dirais un petit peu lourd, un petit peu trop, un petit peu excessif. Alors le rejet, la recherche sur le rejet, c'est quelque chose qui est très très difficile. Même aujourd'hui encore, on ne connaît pas très bien tous les mécanismes intimes du rejet. Et on est, quand on est spécialiste de ça, on se rend bien compte que, alors que d'un côté, le professeur Dosset a eu le prix Nobel de médecine pour le système HLA. HLA, ça veut dire Human Leukocyte Antibodies, ce sont les anticorps portés sur les globules blancs qui entraînent des réactions à tout corps étranger, comme vous avez dit, une bactérie, un virus ou bien un organe qui n'est pas le vôtre. Et on a cru que ça valait le prix Nobel et que ça serait la clé pour les greffes. Et puis en fait, paradoxalement, la greffe c'est beaucoup plus simple. On prend le système immunitaire le plus puissant qu'est le groupe sanguin, même pas le groupe rhésus, le groupe sanguin, et puis on apparie au groupe sanguin. Donc en fait, c'est extrêmement rustique.
Oui.
Et puis, en fait, il a fallu attendre que Borrell, qui était un pharmacien des laboratoires Sandoz, découvre un champignon en Norvège pour lequel il pensait avoir trouvé un antibiotique qui s'appelait la cyclosporine, pour que tout d'un coup, la greffe cardiaque et toutes les greffes d'organes, mais la greffe cardiaque en particulier, deviennent un traitement acceptable. Avant, c'était un traitement que quelques équipes dans le monde ont continué à faire imperturbablement, mais un petit nombre par an. Vous savez, il y a eu quelques centaines entre 67 et 81. Et puis en 81 apparaît la cyclosporine, et tout d'un coup on arrive à maîtriser complètement le rejet. Parce que tous les malades comme Vachansky mouraient d'un excès d'immunosuppression. C'est-à-dire mouraient, on n'arrivait pas à diagnostiquer le rejet, on n'arrivait pas à maîtriser l'immunosuppression, et on était en fait dans un espèce de brouillard. C'est-à-dire que la technique de la transplantation marchait, mais au-delà, on n'arrivait pas à contrôler le rejet. Et en 81 apparaît la cyclosporine, et là tout d'un coup, ça devient une thérapeutique qui traite les gens qui ont de l'insuffisance cardiaque réfractaire. J'espère que j'ai été assez clair.
Oui, et absolument. Et la cyclosporine, c'est, vous l'avez présenté là pour, comme le nec plus ultra jusqu'à aujourd'hui, mais il y a des recherches pour trouver mieux, ou on considère qu'on a vraiment trouvé la réponse à ce phénomène de rejet.
Il y a d'autres médicaments qui sont des analogues de la cyclosporine. On essaye de trouver, parce qu'alors naturellement en médecine, tout ce qui marche bien, c'est vrai pour le cancer, c'est vrai pour la cardiologie, tout ce qui marche bien a des effets négatifs. Oui. C'est rare que quelque chose n'ait que des effets positifs. Donc si vous voulez, la cyclosporine entraîne des effets négatifs, c'est-à-dire qu'à terme entraîne une hypertension, entraîne des tremblements, entraîne le fait que les dents se déchaussent, entraîne un hirsutisme. Et après ça, il y a ce qu'on appelle le rejet chronique. C'est-à-dire que l'immunité semble dormir, être, on dit, quiescente, mais elle dort à moitié. Elle a un œil ouvert, comme les serpents ou les crocodiles, et en fait, elle continue. Et puis, progressivement, malgré le traitement immunosuppresseur, les gens ont des manifestations sur le greffon de rejet chronique qui abîme le greffon. Alors, vous me direz, bon, si quelqu'un vit 10 ans, c'est déjà bien, mais vous savez, il y a des gens qui ont vécu maintenant plus de 25 ans avec des cœurs greffés. Et donc, le vrai problème est effectivement d'améliorer l'immunosuppression en diminuant les côtés chroniques néfastes, et puis en essayant d'arriver à traiter le rejet chronique, qui est encore une autre phase du rejet, et qui, elle, est moins bien, et n'est pas tout à fait encore aujourd'hui complètement appréhendée.
Mais alors, expliquez-moi, puisque on agit sur les défenses immunitaires de façon à ce que le corps ne se dise pas « Ouh là là, j'ai un corps étranger, donc je le rejette », pour l'instant, ça va. Évidemment, on a l'impression qu'on va faire tomber les barrières protectrices, les barrières sanitaires d'une personne. C'est cette dichotomie-là que je comprends, mais qui est difficile à maîtriser, justement.
Ah ben justement, vous êtes sur une crête en permanence entre le fait de tolérer et le fait de déclencher une infection ou un cancer. D'ailleurs, c'est très intéressant en plan philosophique pour vos éditeurs, pour élever un tout petit peu le débat, si vous voulez bien.
Non, mais la médecine, on peut l'élever, mais c'était bien comme débat autour de la technique.
Je parle de ce que je vous disais, pour ne pas rester dans les médicaments, c'est pas une critique de votre émission du tout. C'est que, si vous voulez, le cancer, c'est une tolérance d'une tumeur par un organe, et qu'une tolérance qu'on ne comprend pas très bien. Pourquoi est-ce que cette multiplication de cellules est tolérée alors qu'il y a des défenses immunitaires ?
Oui.
Le sida, c'est un effondrement des défenses immunitaires qui fait qu'un virus va arriver à neutraliser toutes les défenses immunitaires. Et la transplantation d'organes avec les traitements immunosuppresseurs est un peu entre les deux. C'est-à-dire qu'il faut faire tolérer un organe et en même temps pas trop, parce qu'on devient comme un sida. C'est-à-dire qu'un malade qui a une greffe d'organes et qui est trop traité devient sida-like. Et un malade qui n'est pas assez traité devient comme un cancéreux qui tolère un organe qui n'est pas, en fait, normal ou qui n'est pas le sien. Donc, en fait, c'est très intéressant de voir que ces trois grandes maladies ou trois grandes pathologies se réunissent et qu'il y a un cercle commun dans la recherche pour essayer de comprendre ces phénomènes. C'est tout à fait intéressant.
Bien sûr. Alors, entre les trois, Mon cœur balance n'est pas un mauvais jeu de mots. C'est le titre de la chanson de Philippe Catherine qu'on écoute. Professeur Dreyfus, on se retrouve juste après.
Entre le brouillard et le beau temps, entre déconfie, mon cœur balance entre l'athlète et l'adolescent, entre le glaive et le vide, entre le diable et l'ange, aux formes rebondies, mon cœur balance. Entre les deux, mon cœur balance. Entre le coupable et l'innocent, au corps recouvert d'argent, de tous les noms que l'on crie, entre le jour et la nuit, mon cœur balance. Entre les deux, mon cœur balance.
Professeur Dreyfus, on se retrouve, on va écouter ensemble un court extrait, l'un de vos confrères, le professeur Binet. Ben, les techniques de chirurgie cardio-réparatrice ont beaucoup évolué. On va entendre son opinion sur l'ensemble de ces évolutions, puis on la commentera ensemble juste après.
Je considère que la greffe cardiaque est actuellement une opération qui est rentrée dans la panoplie des gestes que doivent pouvoir pratiquer tous les chirurgiens cardiaques. C'est plus du tout une opération exceptionnelle, c'est une opération qui doit être pratiquée dans un certain nombre de cas très précis, et en particulier lorsque l'on ne peut pas faire autre chose. Or, il faut bien dire que depuis la première greffe de Barnard en 67, les progrès de la chirurgie dite réparatrice, ou du moins que vous avez appelée réparatrice en chirurgie cardiaque, ont été tels que les indications de la greffe cardiaque sont devenues véritablement tout à fait rares. Mais je ne crois pas du tout qu'il faut condamner cette greffe cardiaque. Cette greffe cardiaque est quelque chose qui est peut-être le seul espoir d'un individu, le seul espoir de vivre 4, 5, 6 ans, 7 ans ou beaucoup plus longtemps, et qu'il faut lui donner cette chance s'il n'a que celle-là.
Voilà, Jules Dreyfus, précision importante, cette déclaration a été faite en 1978, hein, donc 11 ans après la première transplantation cardiaque du professeur Barnard. Quel est votre commentaire? Qu'est-ce que vous inspire ce que dit votre confrère? Enfin, ce qu'il disait en 78.
Oui, je connaissais bien le professeur Binet, j'étais son interne, j'étais aussi l'interne du professeur Dubost. Alors donc, c'est pas tout à fait les mêmes personnes. Et... écoutez, je crois que c'est un jugement comme on en porte quelquefois et qui n'est pas validé par le temps. Les indications de transplantation cardiaque, elles restent et elles augmentent. Elles augmentent pourquoi ? Parce que la durée de vie augmente et parce que malheureusement, si l'infarctus du myocarde ne tue plus, il détruit une partie du muscle cardiaque le plus souvent et l'évolution va se faire vers une insuffisance cardiaque réfractaire, c'est-à-dire qui répond plus au traitement médical. Donc, l'indication des transplantations cardiaques, elle n'est pas en diminution du tout. Alors, naturellement, l'âge peut être un facteur de contre-indication, et c'est un débat qui est toujours ouvert. Le vrai problème, c'est que les donneurs sont en chute libre.
Voilà, j'allais vous poser la question, effectivement, bien sûr. Alors, dites-nous.
Excusez-moi.
Nous vous en prie.
Non, les donneurs sont en chute libre parce que la société a beaucoup évolué. Quand en 1967 ou même en 1981, la grande majorité des donneurs étaient des gens jeunes qui se tuaient d'accidents de la route en moto. Il n'y avait pas de casque, il n'y avait pas de ceinture de sécurité, il n'y avait pas de limitation de vitesse. Alors, je ne dis pas ça du tout parce que je regrette cette époque, mais c'est une réalité. Et donc, on avait énormément de donneurs. Quand j'ai commencé le programme de transplantation cardiaque, quand j'étais chef de clinique chez le professeur Carpentier, J'appelais tous les matins France Transplant, il y avait au moins deux ou trois donneurs par jour. Mmh. La France faisait à peu près, en 1982-83, à peu près 650 transplantations cardiaques par an. Ce qui était plutôt bien. On était dans un des plus hauts niveaux par habitant au monde. Et puis, maintenant, on est à peu près 300-350. L'Angleterre, où je suis allé travailler aussi, j'ai remplacé le professeur Yacoub, qui a été un des plus gros services de transplantation au monde, puisque en une année, il avait fait 280 transplantations à lui tout seul. En Angleterre, quand j'ai quitté l'Angleterre en 2010, toute l'Angleterre, pour 60 millions d'habitants, faisait 98 transplantations. Donc il y a un vrai problème du prélèvement d'organes et des donneurs. Il n'y a plus de donneurs jeunes, il y a des donneurs âgés dont les cœurs ne sont pas bons.
Pardon. Il faut continuer les campagnes d'appel, comme on le fait, non ?
Je crois pas. Écoutez, oui. les gens le savent, vous savez. Je crois que faire appel... Non, le vrai problème de la transplantation, c'est que je ne pense pas que le message, malheureusement, soit porteur. Vous ne pouvez pas aujourd'hui, en 2015 ou 2016, dire « j'attends la mort de quelqu'un pour que quelqu'un d'autre vive ». C'est ça le message de la transplantation. C'est un message un peu négatif. Et vous avez une famille dans l'extrême douleur, qui vient de perdre quelqu'un qui est brutalement, c'est-à-dire c'est pas une maladie chronique, c'est la mort qui vous tombe dessus à 2h du matin, la police vous appelle, votre fils a été ramassé parce qu'il y a un accident de voiture, vous devez venir à l'hôpital et vous arrivez à l'hôpital et dans les 3 minutes qui suivent, on vous dit qu'il est mort cérébralement et on vous demande dans la suite s'il faut donner les organes. Alors quand on fait des sondages là-dessus, les gens sont à peu près à 80% pour le don d'organes. Quand on arrive à leur famille, c'est 60%. Quand on arrive à vous-même, c'est à peu près 40%. Et dans la réalité, c'est à peu près 30%. C'est-à-dire que le nombre de refus est très élevé. Et ça peut se comprendre. On peut pas culpabiliser les gens. C'est une situation qui n'a pas d'issue, fait appel à des sentiments tellement profonds, tellement complexe. C'est d'ailleurs pour ça que les cœurs artificiels se sont développés.
Alors j'allais venir, justement.
Bah oui,
mais je vous écoute attentivement. Mais j'allais venir. Est-ce que c'est une alternative à la greffe? Parce que c'est quelquefois les besoins ne sont pas les mêmes. On peut pas mécaniquement dire puisqu'il n'y a pas assez de cœurs, on met un cœur artificiel. Ça dépend aussi de la demande des exigences médicales. Est-ce que c'est une alternative ou non?
Mais normalement, ça doit le devenir. Ça l'est déjà partiellement, pendant beaucoup avec beaucoup de moyens d'assistance. Alors, on n'a pas beaucoup de temps, donc pour essayer de faire simple, il y a eu des tentatives de cœur artificiel il y a très longtemps à Houston, au même moment que les Américains sont allés sur la Lune. Et ils avaient obtenu des budgets considérables de Lyndon Johnson à Houston pour faire un cœur artificiel. Ils ne sont jamais arrivés. Comme vous avez entendu, on parle de Carmat, et c'est quand même encore très compliqué. Alors, on peut ne pas remplacer le cœur humain, on peut l'assister avec des machines de pompe ventriculaire implantées à la pointe du cœur et qui remplacent complètement un ventricule. Et là, il y a des malades qui vivent depuis 10 ans avec ça. Donc oui, il y a des moyens mécaniques pour suppléer l'insuffisance cardiaque et permettre à des malades de vivre de façon... normal, ça devient difficile, mais alors là, on n'est pas sorti du débat, on n'a pas le temps, qu'est-ce que c'est que la normalité? Est-ce qu'un diabétique qui se pique 3 fois par jour a une vie normale? Pour lui, oui, pour vous et moi, non. Est-ce qu'un insuffisant rénal dialysé a une vie normale? Pour lui, oui, pour nous, non. Donc est-ce qu'un malade qui se balade avec des piles à la ceinture et qui a un ventricule artificiel qui pompe en permanence a une vie normale? Il a une vie qui lui permet d'avoir une vie physique, de vieillir, de voir ses enfants, ses petits-enfants, d'avoir une vie de relation. Oui, dans ce sens-là, on a besoin de systèmes artificiels.
Et la recherche,
pourra pas revenir en arrière.
Oui, et alors, la recherche en cardiologie, elle est axée plutôt sur le cœur artificiel ou le travail sur la maîtrise du rejet. C'est quoi la priorité? Parce que
dans la recherche,
il y a toujours une politique.
La recherche est une politique et c'est aussi une volonté de quelques hommes. Vous savez, c'est difficile de structurer au niveau d'un État ou au niveau d'une communauté. Donc, je crois que la recherche aujourd'hui, elle est effectivement dans les mains de la recherche d'un ventricule artificiel ou de deux ventricules artificiels ou d'un cœur artificiel qui permettrait de se passer de transplantation. La transplantation restera toujours la référence parce que c'est ce qui permet de vivre attaché à rien, et menant une vie normale physiquement et prenant maintenant des médicaments relativement bien contrôlés. Mais le nombre restera toujours limité. 200, 300 personnes en France, ça ne permet pas de traiter les 3000, 4000, 5000 malades qui ont besoin d'une assistance.
Bien.
Donc, si vous voulez, il faudra bien trouver une autre solution mécanique.
Très bien.
Et ça, c'est la recherche, oui.
Ça va être la conclusion, professeur Gilles Dreyfus. Merci infiniment pour tous vos éclairages professionnels. Bien sûr, je rappelle que vous êtes cardiologue, chirurgien, directeur médical du Centre cardio-thoracique de Monaco. Merci, au revoir. C'était Affaires Sensibles, aujourd'hui la première transplantation cardiaque, une émission que vous pouvez réécouter en podcast sur franceinter.fr. Rendez-vous également sur la page Facebook d'Affaires Sensibles. Demain, nous évoquerons l'aventure des radios libres.